aujourd'hui, nous sommes à la basilique Saint-Nicolas de Port, une basilique dont le nom est connu, mais finalement qui n'est pas forcément peut-être si bien connue que ça des Lorrains. On en a beaucoup parlé à une époque, on en parle moins. Et nous avons trouvé que c'était peut-être justement cet été l'occasion de vous faire une petite visite guidée avec le président de l'association Connaissance et Renaissance de la Basilique, Thibault Laplace. Thibault Laplace, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes passionné par cette basilique et vous allez nous en faire une petite visite guidée, même si chaque dimanche d'été, il y a à 15h des visites guidées beaucoup plus conséquentes que celles que nous ferons aujourd'hui. Alors déjà, peut-être parler un peu, si vous voulez bien, de l'histoire de cette basilique.
Alors cette basilique est née à la suite de la bataille de Nancy. La fameuse bataille qui permet à René II de retrouver son duché de Lorraine. La dernière nuit qu'il a passée avant la bataille, c'est-à-dire le 4 janvier 1477, il l'a passée ici à Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas-de-Port se trouvait déjà la relique du saint. Ce saint était déjà très vénéré et évidemment René II, dans sa dernière nuit avant la bataille, a demandé à Nicolas de l'aider, l'aider à remporter la victoire. Le lendemain, il a remporté cette victoire, il a retrouvé son duché de Lorraine. Et cet édifice-là est en fait une sorte d'ex-voto de René II à Nicolas, qui non seulement en a fait le patron de la Lorraine, mais aussi lui a fait construire cet édifice magnifique qui est devenu le sanctuaire national des Lorrains, et plus tard, et bien plus tard, la basilique de Saint-Nicolas-de-Port.
C'est un bel ex-voto.
C'est un très bel ex-voto qui permet aussi, il faut le dire, à René II, en faisant construire un si bel édifice, d'asseoir le prestige de sa famille, de sa dynastie, et de l'inscrire dans le temps et dans l'histoire, à la fois comme protectrice de l'Église et aussi comme protégée de l'Église.
Alors là, je tourne le dos au cœur et je regarde le vitrail du fond et puis je vois plusieurs dates. Alors est-ce que ce sont les dates, je me suis posé la question, de la construction de la basilique ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Alors c'est à peu près ça. Disons que la première date, 1495, donc il est inscrit 1495 coepta en latin, donc 1495 commencé. Alors on n'est pas certain de la date exacte du début des travaux, on dit souvent que ça a été commencé en 1481, donc quelques années seulement après la bataille de Nancy. La date qui est inscrite juste à côté, 1544 perfecta, donc terminé. C'est sans doute le cas. Cette année-là, l'édifice a dû être terminé. Et enfin, il est inscrit 1635 incendia, donc 1635 incendié. C'est le drame de Saint-Nicolas-de-Port. C'est que pendant la guerre de 30 ans, Saint-Nicolas étant à cette époque-là une ville plus importante que Nancy, la ville la plus riche du duché de Lorraine, la capitale économique, même si l'idée n'existait pas à l'époque, évidemment cette ville-là, qui en plus était une ville ouverte, qui n'avait pas de rempart, a été pillée, incendiée, et ça a été le drame de Saint-Nicolas, parce que la ville ne s'en est pratiquement jamais remise.
Donc, il n'a pas fallu tellement de temps pour qu'elle soit construite.
Non, il a fallu très très peu de temps en réalité. En comparaison des édifices de taille de cathédrale, du gothique plus ancien, où il faut souvent plusieurs siècles pour les mettre pour les élever, ici, il a fallu une cinquantaine d'années, 50, 60 ans, pas plus. Il y a plusieurs raisons. La première et la plus importante, c'est qu'on est vraiment dans un temps où les artisans maîtrisent parfaitement leur art, l'équilibre, les forces, la taille de la pierre, les vitraux. Donc ils étaient capables de travailler très rapidement. On est vraiment à la toute fin du gothique. Et puis il y avait sans doute aussi la volonté de René II de faire construire rapidement, faire rapidement son édifice. Et ça lui donne ce qui est aussi son charme, c'est cette unité. On ne passe pas d'une partie 12e à une partie 18e, non, tout ça a été fait quasiment d'un seul trait.
Alors ce qui est impressionnant quand on est dedans, c'est la hauteur.
Et oui, c'est un édifice très haut. Très haut pour d'abord parce que justement, comme on est dans le gothique flamboyant, on sait construire des édifices si hauts qui permettent d'impressionner le pèlerin, le voyageur, d'avoir des baies vitrées qui sont très, très larges, très, très hautes. Première raison. Et puis la seconde raison, c'est qu'aussi, le sanctuaire national des Lorrains, il a été construit à Saint-Nicolas-de-Port, là où existait déjà une ville. Il y avait une petite église, il y avait les halles, et puis autour il y avait les maisons des marchands, et ces marchands-là n'étaient quand même rien d'autre que les plus riches personnages, les plus riches marchands du duché de Lorraine. Donc on n'expulsait quand même pas ces gens-là si facilement, et l'emplacement était contraint, donc on n'avait pas beaucoup de place pour s'étendre. C'est pourquoi, du coup, on a compensé quelque part, sans doute, en faisant un édifice très haut. Et cette impression de hauteur est renforcée par le fait, par exemple, que le transept, si vous voulez, n'existe pas réellement, bon, en tout cas pas directement. Le transept, il faut lever les yeux pour le trouver, puisqu'il est déporté au premier niveau, parce que s'il avait fallu faire un transept au niveau du sol, bah, sans doute qu'il aurait fallu expulser, détruire, sur un terrain qui, en plus, est un terrain en pente. Donc c'est difficile de construire ici.
C'est vrai que quand on arrive à l'extérieur, de quelque côté que ce soit d'ailleurs, on la trouve très très encaissée, on n'arrive pas à avoir une perspective un peu éloignée.
Non, 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 puis plus on est loin, plus on la trouve fine et haute. Et c'est vrai que cette impression-là est encore d'autant plus renforcée par le fait que les tours ont chacune deux bulbes. Ces deux tours, on les appelle les sentinelles casquées de la Lorraine, parce qu'elles sont un peu les gardiennes de Nancy, et puis leur bulbe leur donne la forme d'un casque. Mais c'est vrai qu'elle est très encaissée, et il n'y a pas de parvis, enfin, le parvis ne fait que quelques mètres, on a du mal à prendre du recul pour admirer la façade. D'une certaine façon, on le regrette souvent, mais l'avantage, c'est que, quelque part, l'environnement immédiat de la basilique s'est resté un peu son environnement d'origine. Ce n'est pas comme à Notre-Dame de Paris, par exemple, où au XIXe siècle, on a détruit des quartiers entiers pour dégager un parvis. Non, l'environnement immédiat de la basilique, quelque part, c'est presque le même qu'à son origine.
Oui, c'est pour ça qu'on se retrouve dans une ambiance probablement de l'époque.
Certainement, voilà. Une ambiance un peu plus claire, parce que l'édifice aujourd'hui est très très propre, puisqu'il a été restauré il y a assez peu de temps, mais certainement qu'à l'époque, il y avait plus de fresques sur les murs, et puis il y avait plus de vitraux dans les chapelles et au premier niveau des baies.
RCF Jéricho, n'oubliez pas le guide avec Pascal Michotte.
Nous continuons notre visite de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port avec Thibault Laplace, président de l'association Connaissance et Renaissance de la Basilique. Thibault Laplace, vous avez parlé tout à l'heure des vitraux. Alors, on peut voir certains magnifiques vitraux et puis il y a des endroits où il n'y en a plus.
Oui, alors... Depuis 1635, une bonne partie des vitraux d'origine ont disparu. Il reste certains vitraux d'origine qui ont été, pour la plupart d'entre eux, déplacés au XIXe siècle pendant les premières restaurations de l'édifice. Mais malheureusement, on a perdu quasiment la totalité des vitraux d'origine à cause de l'incendie.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces vitraux? Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers? Est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement remarquables?
Alors la plupart des vitraux d'origine sont remarquables. Il nous reste heureusement, même si elles ont été évidemment en partie aussi restaurées, il nous reste les vitraux de l'abside, qui sont quasiment tous des vitraux d'origine, qui sont en écho avec les vitraux de la baie de la façade, qui sont d'une certaine façon aussi à la gloire de la famille de Lorraine. On voit dans les vitraux de l'abside tout en bas le duc René II agenouillé avec derrière lui Saint-Nicolas. Au centre, une scène de l'Annonciation qui était la scène préférée des ducs de Lorraine, avec en face le duc Antoine, fils de René II. Donc on voit la volonté d'asseoir la dynastie dans le temps. Et puis au-dessus de René II, d'Antoine, les pères de l'Église, des docteurs de l'Église, les apôtres, et enfin Dieu le Père tout en haut de l'abside. Et on voit à nouveau une illustration de cette idée que la famille de Lorraine est protectrice de l'Église et protégée de l'Église.
Voilà, c'est un curieux mélange, enfin curieux, habituel à l'époque, mélange de personnages politiques et puis de personnages de la Bible et de l'Évangile.
C'est ça, parce qu'en fait les vitraux étaient payés par les plus riches, par des mécènes, donc en premier lieu par le duc lui-même, et évidemment il s'est réservé les vitraux les plus admirés, les plus regardés, ceux de l'abside. Ce qui a du coup, c'est vrai, pour conséquence de... il n'y a pas d'unité dans la thématique des vitraux ici à Saint-Nicolas. Pour l'essentiel, ce sont des mécènes, des villes qui ont payé les vitraux.
Alors, il y a eu fin juin des conférences sur ces vitraux. Qu'est-ce que les experts trouvent de remarquable aux vitraux de cette basilique?
Ce qui est remarquable de ces vitraux de la basilique, c'est qu'en fait, à Saint-Nicolas-de-Port, c'est une surprise, mais c'est le plus bel exemple de vitraux lyonnais, parce que les gens qui ont fait les vitraux ici à Saint-Nicolas venaient, il y avait des Lorrains évidemment, dont Jaco de Toul, il y avait un personnage célèbre, un vitrailleur célèbre qui s'appelle Valentin Bouche, qui venait d'Alsace, et puis il y avait Nicolas Droguet, qui était un vitrailleur lyonnais. Et c'est à lui notamment qu'on doit les vitraux de l'abside. Il y a également des vitraux qui ont été faits par Hitz Vogel en Allemagne. Donc ici, à Saint-Nicolas-de-Port, on a les plus grands vitraillés du siècle qui sont venus travailler.
Oui, donc on faisait appel à plusieurs artistes ou à plusieurs artisans.
Bah, ce n'était pas forcément toujours le cas, mais en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. On a fait appel à plusieurs vitraillers, alors parfois en même temps, parfois qui se sont succédés. Certains sont partis, par exemple Valentin Bouche, à un moment, il était installé à Saint-Nicolas avec son atelier, et puis il a quitté la ville pour se rendre à Metz pour la construction de la cathédrale. Et il a fait ses derniers vitraux ici de Saint-Nicolas, il les a fait depuis Metz. Donc on faisait appel à un peu tous les plus riches et tous les meilleurs vitraillés d'Europe, parce qu'on connaissait bien la ville de Saint-Nicolas-de-Port, puisqu'elle était une des étapes importantes sur les routes de pèlerinage, évidemment, mais surtout sur les routes des foires. Et ces foires allaient jusqu'en Allemagne du Sud, jusqu'en Flandre, aux Pays-Bas actuels, et jusqu'à Lyon. Et donc dans toutes ces régions-là, Saint-Nicolas-de-Port était une ville très connue et très, très reconnue.
Oui, il faut toujours se remettre finalement dans la situation de l'époque, hein, et remettre Saint-Nicolas-de-Port dans le contexte de l'époque, ce qu'on a tendance peut-être à oublier de nos jours.
C'est ça, en fait Saint-Nicolas n'était pas une petite bourgade endormie, mais était la capitale économique du duché de Lorraine, à la croisée de plusieurs routes de foire, une des plus riches villes de tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Est de la France et de la région, disons, Sarre-Lorlux, en poussant même jusqu'au Flandre.
Alors il y a des vitraux que je remarque, alors peut-être sont-ils, je ne sais pas, ils m'ont l'air un peu très différents, ce sont les vitraux de la chapelle Saint-Nicolas.
Alors les vitraux de la chapelle patronale sont effectivement des vitraux très récents puisqu'ils ont été faits en 1951. Les précédents étaient des vitraux du 19e et comme ils n'étaient pas protégés, ils ont été détruits en 1940, le jour du bombardement. Tous les vitraux anciens protégés au titre des monuments historiques avaient été enlevés, donc on a pu les réinstaller ensuite, mais ceux-là qui étaient du 19e n'ont pas survécu. Ce qui a donner l'occasion à Madame Camille Courrier-Friedman, celle qui plus tard donnera une partie de sa fortune pour la restauration, déjà de son vivant, de donner de l'argent pour faire réinstaller un vitrail ici dans la chapelle patronale de Saint-Nicolas. Ce vitrail a aussi été en bonne partie financé par des prisonniers qui étaient revenus des camps d'Allemagne, des militaires français qui étaient restés tout le temps de la Seconde Guerre mondiale prisonniers en Allemagne, tout simplement parce que Nicolas est le patron des prisonniers libérés, et donc eux aussi, à titre d'ex-voto, ils ont voulu remercier Nicolas en faisant restaurer ces vitraux ici.
D'ailleurs, cette chapelle, la chapelle de Saint-Nicolas, est particulièrement riche.
Elle est très riche, elle est très jolie. Il n'y a rien ici de très très ancien. L'hôtel de Saint-Nicolas est un hôtel du 19e siècle. D'ailleurs, on voit bien la représentation de Nicolas telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec crosse, mitre, barbe, qui est vraiment notre Nicolas à nous, même si ce n'est pas exactement le vrai Nicolas, parce que le vrai Nicolas, et il faut bien d'ailleurs rappeler que Nicolas, il a vraiment vécu, on en est certain, le vrai Nicolas, il était habillé en romain, et certainement qu'il n'avait pas la barbe. C'est seulement plus tard qu'on lui attribuait tout cela. Les vitraux sont très intéressants parce qu'ils racontent plusieurs scènes de l'histoire de l'édifice. Il y a la première scène, c'est l'avenue du Sire de Joinville. Le Sire de Joinville était, si vous voulez, un petit peu le bras droit du roi Saint-Louis. Et de retour de croisade, leur bateau étant pris dans la tempête, le Sire de Joinville, qui était de Joinville, donc pas loin d'ici, connaissait particulièrement Nicolas et savait que Nicolas était patron des marins en détresse. Donc il a invité la reine de France à prier Nicolas et elle a promis que si la tempête se calmait, elle ferait porter par Joinville au trésor du sanctuaire national des Lorrains un vaisseau d'argent. Et on voit sur le vitrail Joinville qui effectivement vient porter le vaisseau d'argent à Saint-Nicolas-de-Port.
Oui, comme toujours, les églises, les sculptures, les peintures, les vitraux sont pleins d'anecdotes historiques, ils sont toujours édifiants.
N'oubliez pas le guide sur RCF Jéricho.
Nous sommes toujours à la basilique Saint-Nicolas-de-Port en compagnie de Thibaut Laplace, président de l'association Connaissance et Renaissance de la Basilique. Nous continuons notre petite visite guidée. Nous avons parlé des vitraux. Il serait peut-être intéressant de rappeler ce qu'est une basilique. Quelle est la différence entre une église, une cathédrale et une basilique ?
Alors la basilique est une église, mais elle n'est pas une église cathédrale. La basilique c'est une église un petit peu plus particulière qui bénéficie de ce titre honorifique, car être basilique c'est uniquement ça, c'est un titre honorifique qui lui a été attribué par le pape. Il y a les basiliques majeures à Rome, Saint-Pierre de Rome, Saint-Jean de Latran sont des basiliques majeures, et puis toutes les autres basiliques du monde sont des basiliques mineures. Alors on attribue le titre, c'est uniquement sur décision du pape, il attribue ce titre-là parce qu'une église se distingue un petit peu plus particulièrement par son pèlerinage, par les reliques qu'elle contient, et cet édifice ici n'est basilique que depuis 1950, donc c'est très récent dans son histoire. On distingue une basilique avec des attributs. Ici, on les voit très bien. À gauche du chœur, il y a un parasol jaune et rouge. Et dans toutes les basiliques pratiquement du monde, en principe, vous trouvez à gauche du chœur ce parasol jaune et rouge aux couleurs anciennes du Vatican. Et à droite du chœur, vous trouvez une petite cloche qu'on appelle un tintinabule. Et ces deux attributs-là marquent symboliquement le fait que vous êtes dans une basilique. Une basilique également, elle dispose d'armoiries. Donc ici, on les voit sur un pilier du chœur de l'édifice, avec sa devise « De l'Orient à l'Occident ». Pourquoi de l'Orient à l'Occident ? Parce que Nicolas, il a vécu à l'époque dans l'Empire romain, qui est devenu l'Empire romain d'Orient, donc très loin d'ici. Aujourd'hui, c'est la Turquie, donc on n'est vraiment pas dans notre Occident de chez nous. Et puis, Nicolas, il fait le lien entre justement l'Orient, l'Occident, entre la foi catholique et la foi orthodoxe. Saint Nicolas, par exemple, est très vénéré en Russie, c'est le patron de la Russie. Il est très vénéré chez les Grecs, donc c'est le saint vraiment qui fait le lien entre les deux, d'où la devise sur les armoiries de la basilique de Saint Nicolas, de l'Orient à l'Occident. Et on voit aussi le lien particulier qui existe entre une basilique et le pape, sur le fait que sur ces armoiries, on voit les clés de Saint-Pierre qui sont signifiées.
Alors, pour continuer un petit peu à nous promener, bien sûr, on ne pourra pas tout découvrir. D'ailleurs, j'engage nos auditeurs à venir des dimanches d'été faire une visite guidée le dimanche après-midi ici pour en découvrir un peu plus les richesses. Il y a un pilier torsadé.
Oui, il y a un pilier torsadé qui est le plus joli de tous les piliers de la basilique. On ne sait pas, et quelque part peut-être c'est plus chouette comme ça, on ne sait pas pourquoi il est torsadé.
Le mystère du pilier torsadé.
C'est le mystère du pilier torsadé. Ce qui est certain, c'est qu'il est torsadé, et surtout ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas exactement droit. Si vous prenez un repère en vous prenant dans la basilique avec un pilier qui se trouve avant ou après celui-ci, vous voyez bien que qu'il est décalé un petit peu à la manière, si vous voulez, de la tour de Pise, mais de manière moins prononcée. Alors, on émet quelques hypothèses. Peut-être que cette torsade est une façon c'est un trompe-l'œil peut-être, pour masquer le défaut dans la posture du pilier. Peut-être que c'est tout simplement une façon pour les artisans de montrer que ils étaient vraiment non seulement des artisans, mais aussi des artistes, et capables de faire de si grands blocs de pierre, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une guimauve, même si sans doute que la guimauve n'existait pas à l'époque. Donc il y a quelques hypothèses, on n'est pas sûr. Ce qui est certain, c'est que c'est une richesse de l'art absolument magnifique ici à voir à Saint-Nicolas.
Alors, est-ce que Saint-Nicolas est encore un lieu de pèlerinage ?
Oui, alors il y a évidemment la Saint-Nicolas autour du 6 décembre, donc la grande procession le samedi le plus proche de la fête de Saint-Nicolas le 6 décembre, qui est l'événement majeur ici de la basilique. Et puis il y a des pèlerins qui viennent chaque année, tout au long de l'année ici dans l'édifice.
On a oublié, enfin entre autres, de parler de la pierre, parce qu'effectivement, depuis qu'elle a été restaurée, cette basilique, elle est particulièrement lumineuse, vous l'avez dit tout à l'heure, ne serait-ce que, bon, ça de tous les temps, le fait qu'elle soit très haute, mais quand même, la pierre est très très blanche. Est-ce que c'est une pierre locale ?
Oui, c'est une pierre locale, c'est de la pierre de Viterne, donc vraiment pas très loin d'ici. Aujourd'hui, c'est la mode de consommer local, mais à l'époque aussi. Peut-être pas pour des raisons aussi écologiques que les nôtres aujourd'hui, mais ça avait un immense avantage, c'est que le coût du transport était très réduit. On n'avait pas besoin de faire venir de la pierre de très loin. Et dans les carrières qu'on voit encore aux abords de Viterne, la pierre de la basilique ici, elle vient de là-bas.
Est-ce qu'il y a encore des travaux importants à faire ici ?
Il y aurait sans doute des travaux encore à faire, mais pour l'essentiel, l'édifice a été quand même très soulagé par la dizaine d'années de travaux qui ont suivi le leg. Donc, pour l'essentiel, aujourd'hui, l'édifice est bien assis. D'ailleurs, il a toujours résisté, malgré les vicissitudes de l'histoire, malgré l'incendie, malgré le bombardement, malgré le temps qui passe. Évidemment, il a souffert, mais d'une certaine façon, il n'a jamais souffert suffisamment pour perdre l'équilibre. Il est toujours là, et je pense qu'il sera encore là pour bien longtemps.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette basilique ?
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la lumière en entrant, même si elle est un petit peu fictive, parce que le manque de vitraux crée peut-être un peu plus de lumière, mais en tout cas, c'est un édifice qui est très, très, très lumineux, clarteux, comme on dit en Lorraine. C'est un édifice qui est évidemment intéressant à visiter parce qu'il il est très riche de son architecture, il est aussi très riche de sa place dans l'histoire lorraine, il est aussi très riche de ce qu'il dit de Nicolas, et tous les Lorrains évidemment sont très attachés à Nicolas. Donc tout ça fait que je ne me lasse jamais de venir ici.
Merci pour cette visite, Hippo Laplace.